20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, le clarinettiste Florent Hehault est notre invité ce soir alors qu'il vient de s'illustrer au disque dans deux des plus belles pages de son répertoire, le quintet et le trio avec clarinette de Brahms. Nous nous évaderons ensuite à San Francisco en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix sur les traces de Michael Tilson Thomas. Et on commence comme chaque soir avec quelques nouvelles du monde musical. Des nouvelles de Placido Domingo tout d'abord, qui après avoir exprimé ses excuses et admis avoir commis des actes de harcèlement sexuel, s'est vu déprogrammé chez lui en Espagne. Il ne chantera donc pas comme prévu en mai prochain au Théâtre National de la Zarzuela à Madrid et il a dû également renoncer à sa participation à la production de la Traviata, prévue aussi au mois de mai, au Théâtre Royal de Madrid, annonçant dans la foulée qu'il se retirera de tous les opéras embarrassés par ses accusations de harcèlement sexuel le visant. Déjà banni des scènes américaines, Placido Domingo est aujourd'hui persona non grata sur des scènes de son propre pays. C'est par contre de sa propre initiative que la chef américaine Marina Alsop quittera la direction de l'Orchestre symphonique de Baltimore en 2021, on vient de l'apprendre. Elle qui fut la première femme nommée à la tête d'un prestigieux orchestre américain en 2007, a donc choisi de démissionner après 14 ans de collaboration. Les liens ne seront pas pour autant complètement rompus puisqu'elle continuera à diriger l'orchestre ponctuellement et restera impliquée dans le programme éducatif Orchids qu'elle a elle-même fondé en 2008. Les raisons de son départ, qui n'ont pas été précisées, sont probablement dues aux difficultés financières rencontrées par l'orchestre. Philippe Gault vous en dit plus sur ces infos dans ses articles publiés sur le site de Radio Classique. Quelques rendez-vous à noter dans vos agendas. Un rendez-vous avec les jeunes chanteurs de l'Académie de l'Opéra de Paris, parmi lesquels se trouvent peut-être une ou plusieurs futures grandes étoiles de la scène lyrique. Alors ils seront demain soir sur la scène de Garnier pour leur concert de gala annuel, accompagnés par l'orchestre de l'Opéra de Paris, autour d'un programme réunissant un florilège d'air et de duo tiré d'opéras de Mozart, Berlioz, Wagner ou encore Poulenc et Bizet. À l'occasion de la sortie de son album Incantation, le violoniste Virgile Boutelli-Staft sera lui en concert à Paris lundi soir, salle Gaveau, accompagné par des solistes du Royal Philharmonic Orchestra, ainsi que le pianiste Thomas Enko. Il reprendra le programme aux accents absolument envoûtants qu'il vient d'enregistrer, du Kol Nidrei de Max Bruch à la prière Nigun de Bloch, en passant par Tchaïkovski, Saint-Saëns, Corelli ou Massenet. Virgile Boutelli-Staft jouera également ce soir-là une création de Thomas Enko. Thank you. La sérénade mélancolique de Tchaïkovski par Virgil Boutelistaft et le Royal Philharmonic Orchestra. Un extrait de cet album Incantation qui vient de paraître chez Aparté. Une page, cette sérénade de Tchaïkovski qui figurera au programme du concert de Virgil Boutelistaft lundi soir, salle Gaveau. Et il sera très prochainement notre invité dans le journal du classique.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Ce sont deux trésors du répertoire pour clarinette que Florent Hehault vient d'enregistrer pour le label Clarté. Le trio et le quintet de Brahms en compagnie de Jérôme Pernaud, Jérôme Ducrot et du quatuor Vautier. Alors il nous avait déjà offert il y a quelques années sa lecture des deux sonates pour clarinette du compositeur allemand, mais n'avait pas encore gravé le trio et le quintet qu'il a tant fréquenté sur scène. Alors hésite-t-on avant de laisser sa trace au disque dans de tels chefs-d'œuvre? Quand se sent-on véritablement prêt? Florent Hehault nous répond ce soir.
Oui, bien sûr, ce sont deux sommets de notre répertoire, puis même au-delà de du répertoire de clarinette, du répertoire de musique de chambre en général. Il y a cet aspect-là, bien sûr, de se sentir prêt pour les enregistrer, puis de réunir l'équipe. Et, il faut être sur la même longueur d'onde, c'est une musique extrêmement expressive. Et il y a en même temps beaucoup d'axes possibles d'interprétation, donc il faut trouver les personnes avec lesquelles on se sent bien.
Mais justement, dans quel état d'esprit est-on lorsque l'on doit graver, laisser une trace donc d'œuvres que l'on a si souvent jouées, dont l'interprétation a forcément évolué et évoluera encore? Qu'est-ce qui se passe dans la tête lorsqu'il faut s'arrêter sur un moment précis?
Alors, bien sûr, ça représente quelque chose d'important, et en même temps, quand je réécoute les disques que j'ai faits il y a quelques années, j'entends bien sûr, je joue plus de cette manière, mais il y a une sincérité du moment, et cette sincérité, elle vaut ce qu'elle vaut dans l'absolu, mais en tout cas, elle a de la valeur pour ce moment-là. Et donc, ça permet d'être un peu plus détendu si on réfléchit, si on voit les choses de cette manière-là. Donc voilà, c'est une photo à un moment donné avec des gens. De toute façon, on sait bien, et le moment et même le disque, ce sont des contraintes. Je veux dire, le concert en live, bien sûr, il se passe des choses qu'on peut pas vraiment forcément retrouver en studio. Donc, je pense qu'il faut simplement accepter ces contraintes-là et puis voilà, se donner avec le plus de sincérité, le plus de générosité possible sa musique.
Thank you.
quintette avec clarinette de Brahms que vous venez d'enregistrer, Florent Hérault, avec le Quatuor Voce, un magnifique enregistrement qui vient de paraître chez Clart. Ce quintette s'ouvre avec un thème absolument ensorcelant, sans doute l'un des plus beaux thèmes écrits pour la clarinette, qui semble jaillir avec tant de douceur d'un tapis de cordes et puis qui s'envole ensuite. Ce thème, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on l'en joue? C'est quand même l'un des plus beaux thèmes jamais écrits pour votre instrument.
Mais oui, non, il y a un moment magique, cette courte introduction des violons, puis avec le quatuor, en fait, les instruments rentrent les uns après les autres, et il y a tout d'un coup cette note sur laquelle on va développer ce grand arpège. C'est un moment merveilleux, c'est vertigineux, parce qu'à la fois, c'est de cette note-là, on a envie de créer les choses les plus belles. Donc il y a ce vertige-là, mais c'est fantastique, c'est une œuvre extraordinaire. Et je pense qu'on doit absolument parler de Richard Mühlfeld, parce que c'est lui qui a déclenché la composition de ses œuvres. Ce sont deux pièces qui ont été écrites en même temps, le trio et le quintette, en 1891. Et en fait, Brahms avait arrêté de composer. Bon, probablement l'inspiration s'est un peu tarie, s'est arrêté à l'opus 111, qui était le quintette avec deux altos. Et puis voilà, il s'est un peu mis en veille, même apparemment dans sa vie personnelle, il sortait plus trop, et il a même couché son testament, donc c'est pour dire dans quel état d'esprit il était. Et donc il est allé à Meiningen, rencontrer le duc qui voulait absolument le voir, et il a entendu Mühlfeld, ce clarinettiste, jouer le premier concerto de Weber, et là c'était le coup de cœur. Mais vraiment le coup de cœur, il a passé quelques jours avec lui pour se faire expliquer un peu plus en détail l'instrument. Et je pense que on lui doit beaucoup à ce Mühlfeld, parce qu'il avait une sonorité apparemment extraordinaire. C'est un ancien violoniste, donc il avait probablement aussi une façon d'aborder la clarinette dont il était apparemment autodidacte, mais avec une manière très chantante. Et il a redonné l'envie de composer à Brahms, donc c'est très extraordinaire.
On peut que le remercier.
Ah bah oui.
C'est un saint, ce Mühlfeld.
Et justement, dans ces deux pièces et cette phrase, par exemple, dont vous parlez du début du quintette, il y a pas vraiment de virtuosité, en fait, dans ces pièces. Ce sont des pièces qui sont vraiment faites uniquement pour exprimer le sentiment, exprimer de... Donc là je pense qu'il y a vraiment cette chose particulière qui est le son de la clarinette, à laquelle auquel je suis très attaché. Je trouve que le son de la clarinette a quelque chose de particulier, de touchant. Alors, bien sûr, la clarinette est un instrument très versatile qui peut être utilisé de plein de manières, mais quand il est joué avec cette douceur qui est, par exemple, dans ce début du quintette, il y a quelque chose de vraiment très particulier qui amène une certaine introversion. Je pense aussi que c'est un instrument qui fait surgir les souvenirs et un peu le passé, comme ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a touché Brahms.
Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, et il y a une force en même temps, à travers cette douceur, une force qui n'est pas violente, mais qui nous emporte.
Mais si je devais décrire le son de clarinette, je dirais qu'il y a un mélange à la fois de douceur, de rondeur, et puis à l'intérieur, un éclat. Ouais. Une lumière. Et en fait, c'est le mélange des deux qui fait que cette sonorité est tellement belle. La douceur et l'éclat.
Et puis le mélange de la clarinette et des cordes, les quatre cordes de ce quintette. Et puis, il y a ce trio qu'il compose au même moment. C'est un autre équilibre, le trio. On retrouve dans cette œuvre également cette nostalgie, cette tendresse. C'est une œuvre qui est en même temps un peu moins dramatique.
Oui, alors, dans le trio, il y a beaucoup de passion, des moments de sérénité, mais c'est plutôt assez ouvert, assez lumineux, je dirais, tandis que le quintette, lui, est très sombre, très désespéré. Donc on est vraiment sur deux dominantes un peu différentes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le quintette termine d'une manière... Il y a un accord comme un coup de poignard et on va vers la mort. Enfin, c'est une fin pas du tout pour aller vers le public. Je fais une parenthèse, mais en concert, on joue souvent les deux quintettes, le Mozart et le Brahms. Et moi, j'ai souvent par habitude de jouer d'abord le Brahms et de finir avec le Mozart qui, lui, est totalement lumineux, pour un peu se réconcilier, parce que c'est une musique qui est vraiment, vraiment terrible. L'histoire, je pense, c'est que Brahms voulait tenir la partie de piano, donc il y avait une pièce avec piano, donc il serait le pianiste, et puis, c'est évident qu'il y a un hommage à Mozart avec le quintette. Je pense qu'il a, dans ses discussions avec Mühlfeld, ils ont dû parler peut-être probablement du trio opus 11 de Beethoven, le trio avec violoncelle, et bien sûr du quintette de Mozart, ça c'est obligé. Et donc je pense qu'il a fait une pièce, le quintette, voilà, en référence à Mozart, et là c'était la pièce la plus accomplie, et le trio peut-être pour lui participer un peu à la fête. Et puis aussi, il y a une histoire d'amitié aussi au-delà de Mühlfeld, puisque le quatuor était avec deux personnes importantes qui sont Joachim et Haussmann, qui sont, pour Joachim, celui qui a créé le concerto violon.
Et d'autres grands concertos.
Et d'autres concertos, oui, absolument. Et Haussmann, qui a fait avec Joachim le double concerto. Voilà, c'est réunir un peu ses proches qui vont interpréter sa musique et la défendre, puisque ce sont deux pièces qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès à l'époque. Et donc, il y a eu en particulier des tournées en Angleterre. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'au début, le trio est plutôt à la faveur des musiciens, parce qu'il le trouvait un peu plus limpide, mais le quintet s'est imposé. Parce que d'abord, il y a ce mouvement lent extraordinaire, avec le passage médian un peu dans le style hongroise, comme ça. Et ce mouvement-là est tellement impressionnant qu'il a été bissé d'ailleurs à la création. Et j'ai lu une lettre il n'y a pas très longtemps de Joachim à Stanford, le compositeur qui était donc à Londres, pour essayer d'emmener le quintet là-bas. Et il parle de ce mouvement lent comme étant le bijou voilà, qui est dans cette écrin qu'est le quintet.
L'Andantino Grazioso du trio avec clarinette de Brahms que vous avez enregistré, Florent Eau, avec le violoncelliste Jérôme Pernaud et le pianiste Jérôme Ducrot dans cet album qui associe ce trio et ce quintet avec clarinette de Brahms, des œuvres composées à la fin de la vie de Brahms. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, vous, clarinettiste, lorsque vous jouez la musique de Brahms, c'est la musique du dernier Brahms, donc c'est un Brahms qui a un côté plus nostalgique, plus sage, qui est moins fougueux. Vous n'avez que ce Brahms-là, entre guillemets, oui, à servir.
Alors, je dirais que sous forme de boutade, qu'on est un peu habitué, parce qu'il y a une curiosité quand même dans le répertoire, c'est que nous avons beaucoup de pièces qui sont des pièces de la fin de vie, par Mozart, c'est l'année, le concerto, c'est l'année de sa mort, Poulenc, l'année de sa mort, la sonate, Saint-Saëns, l'année
aussi,
de sa mort.
Ouais.
Voilà. Donc, bien sûr, c'est une coïncidence, bien que, quand même, je pense que cette sonorité de la clarinette nostalgique, je pense que c'est quelque chose qui peut attirer des compositeurs qui ont envie d'exprimer quelque chose à l'automne de leur vie.
Oui, c'est vrai que la clarinette, finalement, est devenue le confident des grands compositeurs au crépuscule.
Oui, absolument.
Ce qui vous a permis d'avoir des chefs-d'œuvre bouleversants, comme ces œuvres de Brahms que vous venez d'enregistrer, que vous donnerez en concert. Vous jouerez le quintet à Paris. Ce sera le 2 mars à la salle Colonne. Et vous retrouverez pour jouer le quintet de Brahms les musiciens du Quatuor Voce, et ensuite d'autres projets. Vous partez pour une grande tournée au Japon.
Oui, voilà, une tournée au Japon, enchaînée avec une tournée à Singapour.
Voilà. Et l'enseignement, vous continuez toujours, c'est quelque chose d'important, la transmission, Florent Héo, vous enseignez en France notamment.
Voilà, moi j'enseigne, mais pas qu'en France. Oui, voilà, j'enseigne au CR de Paris et j'enseigne depuis 3 ans à la Haute École de Lausanne. Et je suis par ailleurs invité régulièrement au Japon, à Osaka et à Shanghai en Chine. Enfin, pas en ce moment, la période est un petit peu compliquée pour aller en Chine. Mais voilà, l'enseignement c'est une part importante de ma vie. J'ai toujours pensé que la transmission était quelque chose de très noble. Et donc ma vie artistique finalement est partagée entre, je dirais, 3 activités qui sont l'activité de concert avec ce disque, l'enseignement et puis cette chose un peu particulière qui est les Bombec, qui est un groupe de théâtre musical.
Voilà, un peu plus léger, plus léger. Du spectacle.
Voilà, et donc ces 3 choses-là me rendent heureux parce que ça comble tous les aspects de ma personnalité.
Voilà, vous venez de donner des spectacles avec les Bombec, il y en aura d'autres cette saison.
Oui, dans un spectacle qui s'appelle le Big Bang. Voilà, qui doit être déjà pas loin de sa 100e et qui tourne en France et puis à l'étranger aussi, parce que c'est, il y a très peu de textes, donc c'est ça, on joue, on danse, voilà, c'est très festif. C'est le côté créatif et récréatif de mon activité.
Voilà, le côté festif avec les Bombec et le côté plus dramatique,
voilà,
avec Brahms.
Plus profond. Oui.
Et ce magnifique enregistrement qui vient de paraître sous le label Clart. Merci beaucoup, Florent Héo, d'être passé nous voir.
Merci à vous, Laure.
Florent Héo avec ses complices de l'ensemble Les Bombec dans un arrangement de l'ouverture du Barbier de Séville de Rossini. Florent Héo qui retrouvera les musiciens du quatuor Voce lundi soir salle Colonne à Paris pour interpréter le quintette de Brahms, quintette dont ils viennent de nous offrir une si belle version au disque.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Un voyage à San Francisco avec vous cette semaine.
Exactement, et surtout avec Michael Tilson Thomas, le chef donc encore pour quelques temps, quelques courts moments de l'orchestre de San Francisco. Alors Michael Tilson Thomas, il est né à Los Angeles en 1944, et donc c'est le chef d'orchestre que l'on connaît, on va en reparler, mais c'est aussi un compositeur et un pianiste. Et d'ailleurs, il avait enregistré la musique de Gershwin au clavier, et c'était des enregistrements qui avaient été tout à fait remarqués. Alors, il a fait essentiellement sa carrière aux États-Unis, même si au début de son parcours, il a été chef assistant au Festival de Bayreuth, et puis de 88 à 95, il a été au London Symphony Orchestra. C'est une silhouette très déliée, une gestique extrêmement éloquente, un homme d'une très grande amabilité, et on le voit même quand on est dans la salle et qu'on le voit de dos en train de diriger. Il est à la tête de cet orchestre symphonique de San Francisco Francisco depuis 1995. Et donc, il tire sa révérence après un quart de siècle d'aventure commune avec cette très belle phalange, cette phalange brillante, somptueuse, un peu comme les lumières qui règnent au-dessus de la ville de San Francisco. Et c'est un autre immense chef, Esa-Pekka Salonen, qui lui a dirigé l'orchestre de Los Angeles, qui, après un retour en Europe, prendra la suite à San Francisco. Alors, américain, Michael Tilson Thomas, il l'est aussi dans sa défense et son illustration de la musique de son pays, depuis Ives à Reich, en passant par Copland ou Bernstein. Et d'ailleurs, comme le grand Leonard Bernstein, c'est un passionné de la musique de Gustav Mahler. Il en grave une intégrale avec l'orchestre de San Francisco. Et c'est un ambassadeur, là aussi, comme Bernstein, il y a pas mal d'analogies qu'on peut faire entre les deux hommes. Un ambassadeur du partage de la musique auprès des jeunes générations, que ce soit les jeunes générations de spectateurs et d'auditeurs, puisqu'il a mis ses pas dans ceux de Bernstein en dirigeant la série des Young People Concerts à New York dans les années 70. Et puis, il a fondé à Miami un orchestre de jeunes instrumentistes, le New World Symphony Orchestra, là aussi pour faire passer la passion de la musique auprès des jeunes professionnels. Alors, à San Francisco, qui est devenu donc depuis 25 ans son port d'attache, Michael Tilson Thomas donne très prochainement deux concerts, la sixième de Mahler, justement, ce sera le 6 mars, et puis avec un musicien qu'on connaît bien en France, puisqu'il s'agit du violoncelliste Gauthier Capuçon, le deuxième concerto pour violoncelle de Shostakovich dans un programme russe qui aura en seconde partie l'Oiseau de Feu de Stravinsky, donc un concert qui va être très vibrant, on l'imagine. Mais évidemment, il n'est peut-être pas très facile pour nous de prendre comme ça, surtout en ce moment, un vol immédiat pour San Francisco. Donc, on peut attendre un peu et Michael Tilson Thomas et ses musiciens vont venir jusqu'à nous avec un programme qui comprendra d'ailleurs l'Oiseau de Feu et le premier concerto de Saint-Saëns avec le même Gauthier Capuçon. Et ça, ce sera à Lyon le 5 avril. Et puis à Paris, les 6 et 7, avec du Mahler. Et puis le programme de San Francisco, Oiseau de Feu et deuxième de Shostakovich. Toujours avec Gauthier Capuçon. Donc voilà, où on va à San Francisco, où on patiente un petit peu. Mais là, pour le moment, on ouvre grand nos oreilles avec les premières mesures de la 6e symphonie de Mahler, bien sûr avec les musiciens de San Francisco, sous la baguette de Michael Tilson Thomas.
Début de la 6e symphonie de Mahler par Michael Tilson Thomas et son orchestre symphonique de San Francisco. Merci beaucoup Emmanuel.
Merci
pour
Laure.
Ce petit voyage à San Francisco. Je rappelle les dates de venue de Michael Tilson Thomas et San Francisco en France, le 5 avril à Lyon, puis les 6 et 7 avril à Paris. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de la violoniste Amandine Beyer. Très belle soirée qui se poursuit en musique avec Francis Drezel.